Bonjour. Aujourd'hui, Cyberculture vous emmène dans les pays qui passent pour les moins cyber de la planète. Mais vous allez voir, les micros, les jeux vidéo, les réseaux, tout ça, ça n'existe pas que dans la Silicon Valley américaine. On en trouve partout dans le monde. Et c'est normal, parce que c'est tellement intéressant et finalement pas si cher que ça, que les pays pauvres aussi profitent des technologies numériques. On est allé voir sur place comment ça se passe.
En Côte d'Ivoire, des jeux vidéo clandestins et le démarrage d'Internet. En Haïti, des gamins accros à la console et des artistes sur micro. En Algérie, un jeune fan de Cléo. À Cuba, un institut d'État analyse les virus. En Inde, des grandes firmes informatiques délocalisent leur production. En Tunisie, une option informatique au bac. Et en Vietnam, un système original pour rentabiliser son ordinateur.
C'est parti !
Nous nous sommes servis de la pensée du feu Félix Houphouët-Boigny qui disait à son temps « L'Afrique a raté la révolution industrielle, elle doit être au rendez-vous de l'ère informatique ».
En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, le parc d'ordinateurs est composé à 90% de PC. Mais comme les micros sont taxés à 65%, une grande partie du matériel est importée clandestinement. Officiellement, un gros revendeur de PC commercialise seulement 1000 machines neuves par an. Bien que les ordinateurs servent surtout aux entreprises pour la gestion, en Côte d'Ivoire, on pense que l'informatique est une deuxième chance pour l'Afrique.
L'ordinateur est un très gros avantage pour l'Afrique, puisqu'il permet de gérer avec efficacité. Et l'Afrique en a besoin.
Il y a une tension entre l'homme et la machine. C'est-à-dire ce dialogue homme-machine, moi, c'est beau quoi.
Et les machines ici, sont, quand on s'adresse aux fournisseurs locaux, c'est quand même assez inabordable. En fait, en tout cas, je veux dire, nous, on a quand même des prix en Europe.
De toute façon, il y a un fossé. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir en profiter. Il y en a qui vont pas, qui seront un peu lésés. Mais bon, je crois que c'est un phénomène naturel. Hein, ça existe pour toute chose.
On est obligé aussi, malgré les problèmes économiques qu'on vit dans nos pays, on est obligé d'avancer. On est obligé d'avancer et d'être d'avancer en même temps que les continents et les pays développés.
Sans ordinateur, je crois qu'on ne peut pas être performant, être à la page.
Donc l'Afrique ne peut jamais vivre sans l'utilisation de l'informatique. Il n'est pas question.
Ici, c'est le début de l'Internet. Quelques sociétés, des enseignants et des chercheurs sont déjà connectés. Ils utilisent surtout le courrier électronique, car le prix des télécoms et l'état du réseau téléphonique empêchent le développement du web. Mais ça commence à changer.
Au mois de juin, ici à Abidjan, à Trècheville, au quartier où nous sommes, nous aurons un nœud Internet qui va permettre à chaque utilisateur, via une communication locale, de se connecter sur le réseau mondial.
En croisant autrui et tout ça, tu peux apprendre à autrui ce qu'ils ne savaient pas.
Ça nous permet, nous, les jeunes chercheurs, si vous voulez, de pouvoir garder le contact avec nos anciens laboratoires quand nous étions, par exemple, en France ou aux États-Unis. Et ça nous sert beaucoup dans ce sens-là.
Et de visiter, et de se faire transporter dans d'autres continents pour voir ce qui se passe exactement.
Et comme on dit aujourd'hui, grâce à cet outil, le monde est un village.
Donc le réseau est indispensable. C'est un domaine qui permettra aux hommes de vivre l'événement en direct.
Les jeux vidéo neufs sont rares, car ils sont trop chers. Mais on en trouve quand même plein d'occasions, pirates ou tombés du camion, au marché clandestin, vendus par les enfants de la rue. Et, situation particulière, les jeux d'arcade payants sont interdits par décret.
Il y a eu un petit peu un amalgame où les jeux vidéo ont été confondus, aux jeux de casino et autres jeux à but lucratif. Donc, automatiquement, si ce n'est pas autorisé, il n'y en a pas, à moins que vous soyez dans l'illégalité.
Je vois beaucoup de jeunes qui sont déjà sur les Game Boys. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça fait une initiation déjà à l'informatique, etc. Ça les intéresse.
Les enfants aiment ça. Je l'ai fait à 12 000 francs.
Dans le jeu, d'abord, tu représentes un homme.
Les jeux vidéo sur CD-ROM à Abidjan coûtent 40 000 francs CFA.
Je veux un Game Boy.
Le SNIC, qu'on appelle de 40 000 francs CFA.
Non, c'est un peu moins cher pour que les enfants puissent jouer.
8500.
On dit le monde des riches et puis le monde des pauvres. Bon, ce qui se donne à ça, là, c'est le monde des riches, quoi. Et ce qui fait que les enfants des riches sont encore plus intelligents que les enfants des pauvres.
Je prends tout mon temps et puis je gagne.
Ça aide à toi, le jeune ou bien le jeune africain, à mieux se développer, à mieux se connaître par rapport à lui-même, sa mentalité.
La rapidité de toucher la machine et tout ça.
C'est mieux que la télé. La télé, tu regardes, tu ne fais pas le film.
Tant qu'on s'amuse, on développe l'esprit de recherche. Donc je pense bien que les vidéos, les jeux de l'ordinateur, c'est le démarrage de la connaissance de l'intelligence.
Après la Côte d'Ivoire, nous sommes allés découvrir le cyber sur d'autres continents. Première escale aux Caraïbes, Haïti.
Cet arrêt imprévu de nos émissions était dû à une coupure du courant électrique totalement indépendante de notre volonté.
Eh oui, on entend souvent des spots du genre à Port-au-Prince où l'électricité est fournie moins de 12 heures par jour. Ici, c'est carrément le désastre économique. 80% de la population lutte encore pour la survie en marge du progrès. Mais une minorité vit déjà au rythme de la révolution informatique. Les entreprises doivent coûte que coûte s'informatiser pour être compétitives. Et en plus, pour pallier les insuffisances des compagnies publiques, elles doivent investir dans l'achat de groupes électrogènes et parfois dans des systèmes téléphoniques autonomes. Les télécommunications d'Haïti sont encore à l'âge du cuivre et n'offrent que 60 000 lignes de téléphone, très peu fiables, pour une population de 7 millions d'habitants. Et pourtant, Internet est attendu impatiemment. ACN, le premier distributeur local, a dû se doter d'une antenne satellite. Il facturera l'équivalent de 330 francs par mois pour un accès Internet. Le réseau va bientôt démarrer, un rêve cher à Chilier Jean-Baptiste, monsieur Internet d'Haïti.
C'est l'opportunité pour nous maintenant d'offrir des services liés à l'information, de nous montrer créatifs, etc. et de cesser de regarder l'avenir comme étant la mise à la disposition du monde de notre main-d'œuvre à bon marché, mais plutôt de traiter cette capacité intellectuelle que nous avons et d'en faire un outil économique qui pourrait nous permettre nous assister dans notre développement.
Pour le nouveau Premier ministre, lui-même promoteur d'un réseau de recherche, les enjeux d'Internet vont bien au-delà de la technologie.
Il s'agit précisément de n'avoir pas une perspective seulement de télécommunication, mais d'avoir une perspective d'organisation. C'est le problème fondamental de la société haïtienne.
L'informatique est également en train de modifier la production artistique. Renaud, illustrateur de 28 ans, a attrapé le virus depuis plusieurs années.
L'ordinateur est mon outil de finition en général. Je commence très souvent avec un petit croquis à la main, que j'utilise mon scanner pour transcrire dans l'ordinateur. Et maintenant, les graphistes qui utilisent les techniques traditionnelles qui n'ont pas su à temps faire le switch de l'ordinateur ont des problèmes maintenant.
Il travaille actuellement sur un court-métrage mettant en scène un personnage de synthèse appelé Nel, prototype du méchant militaire. Dans la musique, le cyber a favorisé une baisse des coûts d'enregistrement. Chez FX Studio à Port-au-Prince, le slogan est « L'artiste entre avec sa voix et sort avec un disque » sur fond de musique synthétique. Les jeux vidéo fascinent aussi en Haïti. On en trouve peu sur le marché local et les coûts demeurent prohibitifs. Une console Sega avec deux cartouches coûte 1300 francs alors que le salaire moyen est d'environ 630 francs. Il reste donc l'apanage d'une minorité qui d'ailleurs s'approvisionne aux États-Unis. Beaucoup espèrent en Haïti que la culture cyber vaincra la barrière des coûts et des contraintes d'infrastructure.
Il y a quelques semaines, à Canal+, on a reçu une lettre d'Algérie. C'est Cassia, 15 ans, qui regarde Cyberflash tous les jours sur Canal Horizon et qui collectionne les images de jeux vidéo. On est allé le rencontrer.
Rabi Kassi habite dans la banlieue d'Alger. Comme il adore les jeux vidéo mais qu'il n'a pas de console, il en loue. Aujourd'hui, il a loué une Super Nintendo et il a la gentillesse de nous parler en français.
Je collectionne des images des jeux vidéo et des consoles depuis 2 ans. Je me débrouille pour avoir les catalogues de jeux vidéo pour couper l'image et pour ensuite pour les coller. J'aimerais bien avoir un PlayStation Sony parce que elle a des jeux plus bas que des jeux de Super Nintendo et Mega Drive. Parfois, je préfère regarder jouer aux jeux vidéo que regarder aux télévisions. Ici en Algérie, une console de jeux coûte entre 6 000 et 10 000 dinars. Il y a des jeunes qui viennent de l'étranger et ramènent avec des jeux vidéo et ouais, on les achète très cher. Je n'ai pas de jeux vidéo à moi. Parfois, j'ai lu des jeux vidéo et c'est très cher. Mon meilleur score, c'était sur Super Mario et c'était 600 000.
Collectionner des images de jeux, regarder Cyberflash et louer des consoles, c'est aussi ça la cyberculture.
On retrouve Cyberculture juste après la pub. On le voit bien, même chez nous en Europe, le cyber, ça devient rapidement politique. Tentative de censure d'Internet, récupération du web par les partis, réglementation des jeux vidéo. Mais en Europe, ce sont de vieilles démocraties. Dans des pays où le pouvoir politique est, disons, différent, les problèmes se posent très vite. Les ordinateurs, c'est beaucoup plus difficile à contrôler que les téléviseurs. Nous sommes allés dans un pays communiste, à Cuba, voir quelle est la situation.
Aujourd'hui, à Cuba, comme partout, les nouvelles technologies existent. Mais les produits étrangers, comme les ordinateurs, sont inaccessibles pour les particuliers. Un PC neuf s'achète en devise et coûte un minimum de 600 dollars, alors que les salaires les plus courants correspondent à 10 dollars par mois. Tous les 2 ans est organisé un salon informatique à Havane. On peut y voir des centaines de passionnés, des responsables cubains et des drôles de businessmen étrangers.
Il y a beaucoup des ordinateurs dans tous les offices, dans la cuisine, dans les écoles, partout. C'est vraiment. Et ils ont, pour exemple, ils ont développé ce centre de logiciels, centre software, où vous pouvez y aller et demander un logiciel, parce que le gouvernement pense que ces logiciels sont très chers. Nous n'avons pas un accord de droit d'auteur avec les Américains. Et pour cela, nous sommes libres de copier tous les logiciels, de les amener à Cuba et après de les distribuer partout.
À Cuba, le problème n'est pas de se procurer des logiciels, mais plutôt des disquettes. Les milliers d'utilisateurs de PC sont pour la plupart très compétents, comme un laboratoire gouvernemental de lutte contre le virus informatique.
Ce qui est très important, c'est que Cuba propose une solution pratique contre le développement des virus informatiques. C'est le seul pays du monde qui dispose d'un système national de détection. Quand apparaît un virus quelque part qui n'est pas encore présent dans le pays, nous l'étudions dans ce laboratoire et nous protégeons l'ensemble des ordinateurs du pays. Cela concerne tous les utilisateurs. Ils disposent ainsi de programmes antivirus actualisés à 100%.
Cette crainte de virus informatique est encore plus grande depuis que Cuba s'est connecté à l'Internet avec l'aide du Canada. À cette occasion, Cuba s'est offert un site officiel très réussi.
Je n'ai jamais vu Internet. Je connais Netscape car nous l'utilisons dans un réseau local. Mais un accès réel à Internet, pas encore. Je ne sais pas vraiment à quoi cela ressemble, car je n'ai jamais navigué. Il y a des gens qui sont connectés, mais je ne sais vraiment pas comment cela est possible.
La présence de Cuba sur Internet et l'organisation du Salon Informatique 96 permet au gouvernement de montrer au reste du monde que le pays est de plein pied dans le cyber. Mais tout ça ne signifie pas pour autant que la libre circulation des informations existe à Cuba.
Dans notre pays, tout est dans le contrôle de l'État et la communication. L'informatique, c'est un des points les plus sensibles dans ces contrôles. Ceux qui contrôlent l'information contrôlent la mentalité des citoyens.
Les pays du du Sud ne sont pas uniquement des marchés de consommateurs qui tendent leurs bras à la World Company et à ses produits d'occasion. Ils peuvent et ils veulent être producteurs. Après les vêtements, les voitures, l'électronique, c'est le tour des logiciels. C'est la matière grise qu'on délocalise. Je vous emmène en Inde.
Avec ses 950 millions d'habitants et son faible niveau de vie, l'Inde est plus connue pour ses mendiants que pour ses réalisations dans le domaine de l'informatique. Le PIB par habitant est de $310, soit environ 1600 francs par an, un des plus bas du monde. 50% de la population est analphabète et seulement 1% possède le téléphone. Et pourtant, l'Inde est devenue un des plus gros sur le développement de ce monde, avec une production qui augmente de 30% par an depuis 5 ans. Le pays possède la deuxième communauté scientifique et informatique de la planète. Une mine pour ses sociétés informatiques qui réalisent ainsi à bas prix des développements pour le compte des sociétés occidentales. Parmi elles, on trouve le géant indien Tata, la plus grosse société indienne, un conglomérat qui regroupe à la fois des centrales électriques, des produits alimentaires, des camions et même une chaîne hôtelière. Tata s'est associé avec l'américain Unisys pour le développement délocalisé de programmes, en anglais Offshore Development.
Offshore Development, c'est tout simplement quand le client est situé à l'étranger et que le plus gros du travail est fait ici, en Inde.
Nous sommes ici dans le principal centre de développement de Tata Unisys, situé dans la zone de Bombay. Nous avons 8000 mètres carrés d'installation. Ici, nous avons 5000 mètres carrés. Et dans un immeuble juste à côté, 3000 mètres carrés. Nous avons une capacité d'environ 600 personnes qui travaillent ici. Nous avons développé des logiciels pour les chemins de fer français. C'était à l'époque où nous avons travaillé pour Unisys en France.
Tous ces ordinateurs sont physiquement situés dans la zone industrielle de Bombay, mais ils travaillent sur des projets dirigés en Europe ou en Amérique.
Ici, par exemple, nous sommes branchés sur des ordinateurs aux États-Unis. Ils vont faire le développement du programme ici et il sera testé et intégré en Californie. En fait, c'est une machine située au Brésil qui interprète les données tapées sur ce clavier. Ici, nous travaillons directement sur un ordinateur qui est situé au Brésil.
Mais pourquoi faire développer des programmes ici?
Ils ont du personnel qualifié qu'il est parfois difficile de trouver chez nous. Et ils ont de l'expérience sur ce type de projet.
J'ai à la base une formation d'ingénieur et d'école de commerce. J'ai un diplôme d'ingénieur technico-commercial.
Ils sont moins chers ici, c'est-à-dire que l'on peut faire plus de travail ici que ce qu'on ferait en Allemagne.
Mon salaire est environ de $500 par mois.
Parce qu'un ingénieur système indien est payé 5 à 10 fois moins que son homologue occidental, des millions de lignes de code traversent les frontières chaque jour par satellite. Avec le décalage horaire, on travaille 24 heures sur 24. Lorsque les bureaux se vident en Californie, ils se remplissent à Bombay. Le travail fait pendant la nuit est expédié par satellite et arrive sur les ordinateurs américains le matin, prêt à être testé. Pour l'économie indienne, c'est du chiffre d'affaires à l'export, sans droits de douane, sans taxes et sans frais de transport. Tout le monde y gagne, surtout les clients.
On sait bien que les principaux problèmes des pays en voie de développement, c'est pas la Game Boy ni la dernière version de Netscape. Plus des trois quarts de l'humanité n'a pas le téléphone. Mais les pays du Sud n'ont pas que des handicaps pour entrer dans l'ère cyber. Ils ont aussi des atouts. Peut-être que le principal d'entre eux, c'est la jeunesse de la population. Et c'est pour ça que malgré des moyens limités, certains pays font un réel effort sur l'éducation. Illustration en Tunisie.
Le président de la Tunisie, Ben Ali, doit être le président le plus branché informatique au monde. Ancien ingénieur en électronique, il passe plusieurs heures par jour devant ses micros, Mac et PC, et depuis une dizaine d'années, il développe une politique cyber dans l'éducation.
Nous avons un plan national d'introduction de l'informatique, à la fois comme discipline, mais comme outil de rénovation pédagogique.
Aujourd'hui, les élèves de première et de terminale peuvent prendre informatique comme option au bac. Ce n'est qu'une option parce qu'il n'y a pas encore assez d'ordinateurs.
Les lycées en Tunisie qui dispensent le bac et l'avant le bac sont au nombre de 350 à peu près. À l'heure actuelle, c'est la moitié de ces lycées-là qui sont équipés de laboratoires informatiques.
Et c'est environ 37 000 élèves par an qui apprennent officiellement la culture informatique 2 heures par semaine et en français.
Il apprend un peu d'histoire de l'ordinateur et de cette façon, il a une vision dynamique de l'ordinateur et de cette façon, il va pouvoir suivre l'évolution par la suite. Deuxièmement, on leur enseigne tout ce qui est outils qui les rend un peu autonomes en face d'un ordinateur. Donc, tout ce qui est traitement de texte, tout ce qui est tableur, tout ce qui est gestionnaire de données.
Les meilleurs élèves qui ont la chance d'aller dans un des 6 lycées pilotes apprennent, eux, l'informatique dès l'entrée au collège. Et dans tous les établissements, les professeurs sont encouragés à développer des applications pédagogiques.
Par exemple, dans cette application destinée à l'enseignement de la rhétorique arabe, ce qui n'est pas une chose facile, nous avons essayé de l'agrémenter par quelques aspects portant sur la calligraphie arabe, tout l'art calligraphique et artistique de la civilisation arabo-musulmane. De fait, ici, il y a peut-être un double objectif, d'abord pédagogique, mais aussi un côté, je dirais, éveil culturel, susceptible peut-être de mettre en relief la chose qui nous spécifie, qui nous différencie par rapport à d'autres civilisations.
L'éducation cyber ne se fait pas qu'à l'école. Il existe environ 300 clubs informatiques pour les jeunes répartis dans tout le pays. Voici le tout nouveau à Carthage, près de Tunis. Très chic, PC et Mac, CD-ROM et traitement de texte en arabe.
On a le clavier arabe-français en même temps. Au début, quand on commence, on a du mal à se retoucher. Mais après, on s'habitue.
Et il y a même des jeux.
J'ai appris à déplacer des images d'un logiciel à un autre. J'ai appris à naviguer dans le système. Surtout le PC. J'ai envie de devenir un homme d'affaires.
Malgré la faiblesse du niveau de vie de la population, dans certains pays, on voit apparaître des solutions économiques originales pour avoir quand même accès aux nouvelles techniques. Un exemple au Vietnam.
Nous sommes à Ho Chi Minh Ville, principal centre économique du Vietnam et autrefois Saigon, capitale du Sud-Vietnam. C'est là que nous avons rencontré M. Van Vang, qui a ouvert il y a 3 ans une boutique de location de micro-ordinateurs.
Je m'appelle M. Van Vang, j'ai 77 ans et un ancien employé retraité.
Autrefois employé par une société américaine, M. Van Vang a perdu sa retraite après la chute de Saigon en 75.
Ça m'aide à être indépendant de la question de l'argent.
Il y a 2 ans, la levée de l'embargo américain a permis notamment au matériel informatique de circuler plus facilement. Mais pour les Vietnamiens, le prix d'un PC, même d'occasion, reste très élevé.
Dans les 500 dollars.
Je viens ici pour les jeux. C'est bien ici, mais aux heures d'affluence, il n'y a pas assez de machines.
Je suis fonctionnaire, je viens ici parce que j'habite dans le coin.
J'étudie l'informatique pour améliorer mon niveau de formation.
Actuellement, j'ai 9 ordinateurs équipés de modèles 486. On loue par heure. Avant, c'était de 2000 à 2500 heures. Actuellement, c'est 2500 à 3000.
3000 donc de l'heure, soit l'équivalent d'1,50 franc, le tarif est abordable, même pour un Vietnamien. Pour rentabiliser son investissement, M. Van Vang reste ouvert plus de 12 heures par jour, de 7 heures du matin à 10 heures du soir. Persuadé que l'informatique a un avenir au Vietnam, il a convaincu ses enfants de venir travailler avec lui. Aujourd'hui, ce sont eux qui assurent l'entretien des ordinateurs, car M. Van Vang envisage à 77 ans de prendre sa 2e retraite.
En mai, le dernier sommet de la francophonie était consacré à Internet. En Afrique du Sud, il vient d'y avoir un sommet sur Internet et le développement. Dans le monde entier, il y a des enfants accros aux jeux vidéo, des lycéens qui enregistrent en numérique et des initiatives pour développer les réseaux. Partout, une envie d'y être, ça bouge sur la planète cyber. Vous pouvez consulter Cyberculture sur le web de Canal+. Et on se retrouve cet été pour 3 émissions résumant tout ce qui s'est passé d'important dans l'année. Allez, bon jeu chez vous et sur toute la planète.